L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Ariane Chemin.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Ce soir, nous célébrons la République.
Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can.
L'atelier du pouvoir.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Ariane Chemin, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel atelier du pouvoir, l'émission qui chaque samedi décortique la politique, se propose d'en déchiffrer modes et codes, questionne ses déclinaisons et ses représentations. En cette veille d'élection présidentielle et pour respecter la règle qui impose de ne pas influencer les auditeurs, nous avons choisi de sortir un peu du réel pour explorer ce nouveau continent de l'imaginaire politique contemporain, les séries. Lorsqu'on interroge aujourd'hui un candidat sur ses goûts personnels, il cite plus souvent sa série préférée qu'un livre, se réfère plus volontiers à Baron Noir ou House of Cards qu'à Machiavel. L'élection 2017 à la présidence de la République ressemble d'ailleurs elle-même à un scénario qu'aucun showrunner n'aurait osé imaginer. Pourtant, contrairement aux Américains et malgré des hommes de l'ombre, le bureau des légendes ou encore Marseille, les scénaristes français peineraient à représenter le pouvoir comme si Shakespeare était au fond un meilleur guide que Saint-Simon. Quelles interactions entre le réel et la fiction politique, quelles représentations de l'imaginaire induisent et traduisent les séries, ce sont les questions que nous nous posons aujourd'hui, cher Vincent.
Peut-on encore penser la politique sans l'aide des séries ? De Spin City à House of Cards, en passant par The West Wing, The Office, The Wire ou encore Les Hommes de l'Ombre au Baron Noir dont vous parliez, Ariane, les séries orientent aujourd'hui notre perception de la vie politique et nous donnent un certain nombre de modèles, positifs ou négatifs, de cette dernière. Le succès des séries politiques et l'engouement qu'elles génèrent soulèvent plusieurs enjeux. Celui de leur construction d'abord, finalement assez méconnu, mais aussi de leurs usages en politique, alors que les hommes politiques reconnaissent, vous le rappeliez Ariane, qu'ils adorent regarder les séries et s'en inspirent. Celui de l'incarnation ensuite, alors que le personnel politique est dans la vraie vie critiqué pour son incapacité à habiter les fonctions qu'ils occupent, les acteurs étant jugés plus à même de refléter la complexité et la grandeur de l'art du politique. Ces questions nous emmènent enfin à penser la question de la narration de la politique, alors que les séries contribuent à la découper en feuilletons à épisodes. La mise en scène inhérente à la modernité politique, une évolution dont les séries sont un point culminant, fait écho à la phrase introductive de la Société du spectacle, l'œuvre pamphlet de Guy Debord parue en 1967 « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles ». Alors, comment fabrique-t-on une série politique ? Qu'est-ce que ces dernières font à la politique ? Et les séries ne sont-elles pas une étape supplémentaire de la Société du spectacle dont parle Guy Debord, mettant en scène un monde politique plus que jamais désincarné. Alors que nous nous apprêtons à désigner le ou la présidente de la République et donc à entrer dans un nouveau monde politique, ce sont les questions originales mais néanmoins essentielles que nous posons à nos invités dans ce nouvel atelier du pouvoir consacré cette semaine aux séries en politique, quand la réalité dépasse la fiction.
Avec nous autour de cette table, Charline Delépine, vous êtes scénariste, mais vous avez aussi produit la première saison d'Engrenage et surtout sur France 2, les trois saisons des Hommes de l'Ombre, dont la dernière a été diffusée à l'automne. À vos côtés, Emmanuel Taïeb, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon, rattaché au laboratoire Triangle, et vos recherches les plus récentes portent sur les séries télévisées.
Bonjour à tous.
Et enfin, Benjamin Faux, co-directeur du dictionnaire des séries télévisées, mis à jour l'an passé, chez Philippe Rey et chez le même éditeur en 2012, des 101 meilleures séries télévisées. Vous faites par ailleurs partie d'une association qui s'appelle l'Association française des critiques de séries.
C'est Clémence Parodi avec nous ce matin dans le studio, la ministre chargée des relations avec le Parlement, qui doit présenter le projet. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs le contenu de ce projet de loi ?
Morlaix cogne fort cet enfoiré. C'est pour ça
que j'ai le... Il veut juste marquer des points avant que sonne la cloche du dernier round.
Fin absolue du cumul des mandats, suppression du Sénat, diminution du nombre de députés, resserrement des communautés urbaines. C'est un pays allégé de ses pesanteurs et d'échelons inutiles que nous proposons pour entrer de plein pied dans le monde du XXIe siècle.
Charline Delépine, nous n'avons pas résisté à diffuser cet extrait de la dernière saison des Hommes de l'Ombre parce que cette scène de mitraillage se passe dans un studio de la Maison de la Radio. Et la question qu'on a évidemment envie de vous poser en tant que productrice des Hommes de l'Ombre, c'est est-ce que il y a quelques jours, quand on a déjoué un attentat contre possiblement un candidat à la présidence de la République, vous avez pensé à cet petit épisode des Hommes de l'Ombre ?
Non, parce que j'ai voulu l'oublier, vraiment. C'est une fois que nous nous étions débarrassés de cet attentat à la Maison de la Radio, je dois dire, j'ai vraiment voulu qu'on passe à autre chose. Ça a été compliqué. D'abord, on ne l'a pas tourné ici, évidemment. C'était difficile de le tourner dans ces locaux. Et nous avons même eu, pour vous dire la vérité, l'exigence d'enlever Maison de la Radio dans ce qu'on dit. On dit à la radio, on ne dit pas que c'est la Maison de la Radio, parce que ça ne donnait pas une image très sympathique de ce lieu où nous sommes.
Mais alors c'est intéressant parce que cette série a été diffusée donc à l'automne dernier, donc on a l'impression que vous avez vraiment collé, vous avez tellement collé à l'actualité que vous l'avez presque devancé. Alors racontez-nous comment vous avez imaginé cette saison 3 et d'une manière générale les Hommes de l'Ombre.
Il y a quelque chose de prédictif, vous avez raison. Souvent, on nous a demandé si les scénaristes n'étaient pas un peu voyants. D'autant que ce qui a été diffusé à cet automne 2016 a été écrit, évidemment, presque un an et demi avant. Donc, nous avons commencé à travailler bien avant la vague d'attentats. Nous avons juste gardé ce démarrage-là, qui est en fait un assassinat. En revanche, ça se terminait, la série, par un attentat et que nous avons, en accord avec France 2, décidé de transformer, d'enlever. Et toute la fin de la saison 3 a été réécrite car elle était beaucoup trop anxiogène. Elle collait trop à la réalité.
Benjamin Faux, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on pense aux séries politiques, est-ce qu'il y a une spécificité ? Est-ce que vous diriez par rapport aux autres séries, vous qui connaissez bien l'ensemble des séries, qui, on le rappelait, faites partie d'une association de critiques de séries, qui est un journaliste spécialiste des séries, est-ce que vous diriez que, quand on pense aux séries politiques comme Les Hommes de l'Ombre, comme House of Cards aux États-Unis, c'est différent des autres séries dans la dramaturgie ou dans les passages obligés ?
Non, dans la dramaturgie, c'est les séries respectent effectivement des codes qui sont les mêmes pour tous. Ensuite, il y a des thématiques, il y a des façons de traiter les personnages, de traiter leur activité qui diffèrent. Mais le problème de la série politique, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout. Et notamment en France, où on les compte sur les doigts d'une main. Et le genre est un peu plus, effectivement, développé en Amérique, ou dans le genre strictement satirique, c'est-à-dire vraiment dans un genre vraiment comique et caricatural en Grande-Bretagne. Mais en France, on n'a pas du tout de tradition de séries politiques.
Alors, est-ce que vous pouvez les énumérer, ces séries, en France ?
Il y a quelques-unes en France. Il y a eu l'État de grâce, il y a quelques temps. Ouvertement politique, hein, je veux dire, vraiment. Il y avait les Hommes de l'Ombre, il y avait Baron Noir, l'an dernier. On peut même citer Marseille, pour rire un peu, mais faut la citer.
Emmanuel Taïeb, je me tourne vers le prof de sciences politiques, d'une certaine manière. Quand on parle d'une série politique, ça veut dire quoi exactement ? Parce qu'il y a des séries qui parlent de thèmes de société, qui abordent non pas la lutte concurrentielle pour le pouvoir, pour reprendre la formule de Max Weber, mais qui parlent quand même de politique et qui ne sont pas ouvertement politiques. Je pense à The Wire.
Il y a des séries... Alors, une série politique, c'est une série qui se déroule dans l'univers politique ou qui se déroule dans le champ politique et qui va mettre en scène des acteurs politiques, des institutions ou des acteurs des champs connexes à l'activité politique, c'est-à-dire des communicants, des sondeurs, des lobbyistes et des gens qui travaillent dans... des journalistes, des gens qui travaillent autour du politique. Mais donc là, effectivement, ça va être le centre de l'action, au sens où les personnages principaux travaillent ou participent de ce champ politique principal. Mais on peut aussi avoir des séries qui ont une dimension politique, ou une dimension socio-politique, ou socio-économique et politique, où l'activité politique n'est pas centrale, où elle arrive à un moment, et où il se passe d'autres choses, ou bien des séries où il y a une dimension, ou un message, entre guillemets, politique.
Alors, par exemple ?
Alors, The Wire, que vous avez mentionné, qui est une série phare américaine très connue, qui a été diffusé il y a quelques années sur HBO, où il y avait 5 saisons, et où on suivait la vie de policiers, de dealers, de journalistes, d'une campagne municipale dans la ville de Baltimore, et où un nombre de personnages importants s'entrecroisaient.
Et en quoi c'était politique ?
C'est politique parce que les deux créateurs de la série, ce qu'on appelle les showrunners, ce qui s'appelle David Simon et Ed Burns, sont des gens politisés qui ont fait cette série pour porter, même si le terme n'est pas très bon, pour porter un message politique et sociale et économique était un message de dénonciation aux États-Unis du chômage de masse, de la déliquescence des liens sociaux, du triomphe de l'intérêt particulier sur l'intérêt général, de dénonciation de la guerre à la drogue qui coûte beaucoup d'argent mais beaucoup de gens en prison sans effet réel, et de formes de corruption ou de déliquescence institutionnelle générale. Donc là, il y a une vraie dimension politique très forte.
La série préférée d'Obama, d'ailleurs, je le rappelle.
Absolument.
Ce qui est très intéressant avec cette série, c'est qu'elle a donné lieu à énormément de littérature et de colloques, à tel point qu'on va dans les quartiers nord de Marseille, on vous en parle, chez les associatifs. Mais est-ce que The Wire, ça a été quelque chose d'important pour la productrice de série que vous êtes? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que ça a été un modèle?
Oui, The Wire a été une série importante parce qu'elle était aussi sur un... Pas seulement pour son contenu, pour sa forme aussi, parce qu'elle avait une forme très particulière où on n'essaye pas de prendre totalement par la main le téléspectateur d'entrée de jeu. La mise en place des personnages est un peu lente, un peu différente de ce qu'on peut trouver dans des séries de grand public. Elle a vraiment une structure un peu particulière. Alors, bien sûr, ça serait difficile, par exemple, d'imaginer The Wire diffusé sur France Télévisions ou même sur TF1, n'en parlons pas.
Pourquoi ?
Parce que c'est une série qui est vraiment pour les chaînes à péage américaines. Ce sont ce qu'on appelle des séries de niche. Elles ne correspondent pas à l'attente du public en France. Et donc, l'un de nos problèmes par rapport aux séries politiques, c'est que nous n'avons qu'une chaîne à péage en France, vraiment existante,
qui est
Canal+, et que ça n'est pas très facile de créer une série politique pour les chaînes à grand public.
Alors justement, c'est la question qu'on voulait vous poser à vous, Charline Delépine, qui êtes vraiment productrice de séries télévisées. C'est comment est-ce qu'on fabrique une série politique en France? C'est-à-dire, quand vous avez imaginé Les Hommes de l'Ombre, de qui vous vous êtes entouré? Vos scénaristes, c'était des gens qui venaient de la politique, ou au contraire, il vaut mieux se tenir un peu distant? Il faut créer une frontière entre le réel et la fiction? Au contraire, vous voulez vous inspirer du réel? Comment est-ce que vous avez travaillé?
Eh bien, les deux. C'est-à-dire qu'on mélange Shakespeare et des conseillers en communication. Donc nous avons mélangé Dan Franck et Régis Lefebvre. Régis Lefebvre étant un ancien conseiller en communication. Enfin, je crois que d'ailleurs il continue à exercer ce métier. Je ne dirai pas avec qui, puisque nous n'avons pas le droit de le dire aujourd'hui. Et Dan Franck est donc romancier et scénariste aussi de télévision. Et l'Alliance des Dieux a très bien fonctionné. On était à la fois dans des grands sentiments shakespeariens et en même temps dans une réalité absolue.
Oui, mais concrètement, c'est-à-dire qu'ils regardent des séquences qui existent vraiment et disent « Ah, cette séquence, on va la mettre dans la série ». Ils imaginent tout à partir de zéro. Ils prennent des exemples dans d'autres pays. Comment est-ce qu'ils ont fonctionné dans
leur
relation ?
Non, ils ont travaillé sur la base de personnages. Donc d'abord, le personnage du communicant a été créé. Et ensuite, on savait qu'on devait rentrer dans quelque chose d'hyper romanesque. Pour pouvoir séduire France Télévisions et notre fameuse ménagère, il fallait qu'on rentre dans de l'hyper-romanesque. Donc c'est un mélange, en fait, de réel et de soap même parfois.
Vous disiez tout à l'heure, Marjolaine Faux, qu'il y avait peu de séries politiques en France. Est-ce que ça tient à une culture, à une frilosité? Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a des tabous que les Français n'osent pas, au fond, dépasser?
Alors, en fait, historiquement, il y a eu une tradition quand même du propos qui n'était pas un propos expressément politique, mais qui était au moins l'expression d'un regard sur le social et sur l'histoire à l'époque de l'ORTF et un tout petit peu après, où vraiment, alors effectivement, c'était un peu didactique, c'était en noir et blanc, c'était la reconstitution, ça s'appuyait vraiment sur le patrimoine français, etc. Mais il y avait quand même un regard et une expression, je sais pas, parler de Robespierre à une heure de grande écoute, c'est pas rien, c'est politique aussi, quelque chose.
Et c'était le cas. Part.
Et c'était le cas, et on le faisait couramment. Ensuite, après, il y a eu, à partir des années 70 et dans années 80 et années 90, je dirais, il y a eu vraiment un trou noir de la représentation politique à la télévision. Il y avait encore des gens qui représentaient une autorité, mais c'était des personnes et non plus des représentants d'une société. Le héros des années 90, c'est un commissaire ou c'est un instit. Alors effectivement, il a une place dans la société, il représente quelque chose.
Ou un médecin.
Mais où un médecin?
Emmanuel Taïeb.
Il y a eu effectivement une tradition de parler du social à la télévision française. Toutes les enquêtes de Maigret, Simenon, etc. C'était la plongée dans un univers social. Mmh. Je crois qu'en France, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on faisait de la politique. Et donc, on n'a pas fait de série sur la politique parce qu'on en faisait. Faire une série sur la politique, ça implique de la représenter dans tous les sens du terme. Ça implique de mettre la politique à distance et de dire la politique, on va en parler désormais dans une scène fictionnelle qu'on va mettre un tout petit peu à l'écart. Et peut-être que, visiblement, en tout cas, dans les années années 70, 80, 90. C'était difficile à faire. Ça arrive un peu maintenant, mais timidement, effectivement.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un reproche qu'on fait souvent aux séries politiques françaises d'être très formatées? Justement, vous disiez, Charline de Lépine, il faut plaire à la fameuse ménagère. Et du coup, en voulant plaire à tout le monde, on plaît à personne. On fait des séries, même si les Hommes de l'Ombre et puis Baron Noir ont eu un véritable succès, sont des séries qui sont finalement très formatées ou très éloignées de formes de réalité, ou alors qui essayent de gommer des aspérités qui existeraient dans les séries américaines et qui font leur succès.
On est quand même sur des audiences qui sont bien au-delà de 3 millions de téléspectateurs sur les Hommes de l'Ombre. Évidemment, pas Baron Noir, puisque c'est Canal, donc s'ils font 900 000 ou 1 100 000, c'est déjà merveilleux. Mais ce qu'on a essayé de faire avec les Hommes de l'Ombre, c'est d'alterner, c'est-à-dire en emmenant dans les coulisses du pouvoir, ça nous permet de susciter la curiosité et d'avoir cette partie de vie personnelle, ce que j'appelle « soap », tout en ayant à côté vraiment mis en avant ce qui est de la vraie politique politicienne.
Il n'y a pas un malaise, il n'y a pas une peur de déplaire aux politiques aussi. On dit par exemple que Nicolas Sarkozy n'avait pas trop goûté certains épisodes des Hommes de l'Ombre.
Alors écoutez, franchement, je m'en fiche. Et c'était pas du tout.
Tout le monde s'en fiche pas, non ?
Bah, France 2 s'en fichait également. On n'a jamais eu aucun interdit par rapport aux Hommes de l'Ombre.
Mais est-ce que les interdits ne sont pas au fond culturel ? Est-ce que, là, je m'adresse aux chercheurs, est-ce qu'Emmanuel Taïeb, il n'y a pas la même relation entre, chez les Français, entre le pouvoir et les scénaristes, qu'entre le pouvoir et les journalistes ? On dit toujours que les journalistes français sont plus frileux, au fond, que les journalistes anglo-saxons.
C'est possible. En tout cas, les séries américaines ont tendance à y aller, entre guillemets, c'est-à-dire à y aller vraiment de la même façon que les journalistes. Les journalistes américains, peut-être, y vont davantage. En tout cas, ils essaient de chercher quelque chose. Et ça a été dit à propos de The Wire, mais on peut le dire aussi à propos d'une autre grande série américaine politique qui s'appelle À la Maison Blanche, The West Wing. Ce sont des séries qui n'hésitent pas à être très didactiques, à être un peu complexes, à être un peu techniques. Dans ce qu'elles vont évoquer, on va parler de grandes politiques publiques, on va avoir des moments où on va discuter d'un budget. Tout ça peut être assez rébarbatif pour un public qui n'y est pas habitué. Pourtant, la télévision américaine y va. Alors ça renvoie peut-être aussi à une familiarité évidente aux politiques.
Benjamin Faux.
Pour le coup, juste pour réagir effectivement là-dessus, The West Wing, effectivement, où il y a des séquences entières qui sont très didactiques, où un personnage peut expliquer les enjeux de la politique agricole américaine pendant 5 minutes, 10 minutes, ça passait sur NBC, qui est pour le coup... une des très grandes chaînes américaines et grand public. Mais même aux USA, c'est quand même assez rare. Mais vraiment, ce qui est très important pour une série, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans l'ADN de la série, c'est justement le format. Ce qui fait vraiment la particularité de la série, c'est qu'elle doit respecter un format et que c'est ensuite à l'auteur, au scénariste, d'adapter, de faire passer ce qu'il souhaite faire passer au sein du format. C'est-à-dire qu'on doit effectivement emporter les auditeurs avec des personnages et des événements, mais au sein d'un format très découpé. Donc le rythme, le découpage est quelque chose de fondamental.
Et justement, comment vous observez le rythme des séries françaises, politiques françaises ? Vous diriez qu'il est très différent de ce qu'on observe ailleurs ?
Les séries françaises ont historiquement généralement été plus lentes, puisque leur format était un peu plus long. La plupart des séries des années 90 étaient sur un format d'une heure et demie, puisque c'était calqué sur le cinéma.
C'est des collections, en fait.
C'était des collections.
C'est parce que ça ne se suivait pas. On a un vrai problème en France, c'est on n'a pas de tradition de séries. On a eu une tradition, au moment de la naissance de la RTF et de l'ORTF, de fabriquer des faux films pour la télévision, ce qu'on appelle les téléfilms, en fait, qui sont des faux longs-métrages pour la télévision. Finalement, l'accès à la série de 50 minutes ne date que la fin des années 90. Donc ça fait très peu de temps qu'on travaille dans le même sens que les Américains ou que les Anglais. Alors, la relation entre les scénaristes français et le format est finalement assez nouveau. Donc je trouve qu'on n'est pas très en retard.
Bah justement, à ce propos, il y a une question que forcément se posent nos éditeurs et que nous aussi on se pose concernant les séries politiques. C'est, on a l'impression que c'est un phénomène qui est très largement dominé par les Américains, par les Anglais. La France s'y met. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on fait des grandes séries dans le monde ? Benjamin Faux, vous qui observez un peu les différentes séries, il y a des pays qui se passionnent pour des séries politiques à part...
Non, on n'a pas vraiment personne n'a de tradition de séries politiques. Il y a évidemment des séries sociales et des séries politiques.
Les Scandinaves,
et Scandinave, effectivement.
Borgen,
voilà.
Manuel Taïeb.
Borgen est l'un des grands exemples. Donc je ne crois pas que la France soit complètement en retard. C'est vrai que les Américains ont une surproduction de séries politiques et les autres pays font autrement.
Bon, bah alors ça tombe bien de parler de Borgen parce que justement, on voulait vous faire entendre un bout de Borgen, cette série qui met en scène un premier ministre au Danemark, donc qui montre un autre visage de la politique. On écoute.
Notre invitée est la secrétaire générale du parti centriste, Birgit Nyborg Christensen. Soyez la bienvenue.
Je vous remercie.
C'est Casper.
Mais c'est quoi ton travail, Casper?
Comment tu appelles ça, hein? Spin docteur?
S'il vous plaît, faites en sorte qu'on ne voit pas son manque de sommeil. C'est toi qui présenteras le dernier débat ce soir.
Je suis choquée qu'à une journaliste toute jeune et ignorante comme toi, on puisse confier le débat final. Tu n'es pas encore prête.
Voter demain pour la modernité centriste, c'est voter pour un nouveau Danemark.
Les grands vainqueurs sont les centristes.
15 sièges, Ben. 15 sièges. C'est à n'y rien comprendre.
Tu ne donnes plus de nouvelles. Tu vois quelqu'un?
Salut. Regarde, bordel. Tout ça peut être à toi. Mais le pouvoir, putain, c'est pas un petit chat qui saute sur tes joues et reste dormir là. Il faut le saisir, il faut le garder.
Tu n'as plus d'amis au château. Tu dois pouvoir dire non à tout le monde et pouvoir virer n'importe qui sans bouger.
Nous voulons former un gouvernement avec vous, mais évidemment ce sera moi le Premier ministre.
Je suis enceinte.
De qui?
De Hole.
Je ne voterai pas pour ta loi de finances. La nouvelle droite non plus.
La loi de finances est en danger, c'est le chaos.
Oui, c'est comme à la maison.
Hey! Nous pouvons faire ce que notre propre parti a fait ces 50 dernières années. Collaborer avec les deux bords proches de notre politique.
Il n'y a qu'un truc important, c'est de faire une télé qui déménage.
À toi, Catherine.
Il est 20h30, vous suivez les informations de TV1, bienvenue.
Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? On ne se verra plus en privé.
Il a fait pipi dans son pantalon.
C'est la troisième fois ce mois-ci. Je crois que tu lui manques.
Ce matin, j'ai vu les chasseurs de têtes. Ils voulaient savoir si j'accepterais d'être le directeur de Via Electronics pour l'Europe du Nord. J'ai dit oui.
Ton groupe a fabriqué du matériel qui est à bord des avions que mon gouvernement a choisi d'acheter. Alors, vous gagnez de l'argent parce que mon gouvernement a pris cette décision.
Birgit.
Mon mari ne peut pas avoir ce job.
Non, mais est-ce que tu peux avoir un mari?
C'était un petit medley de la série danoise Borgen, diffusée sur Arte. Vous la connaissez, Benjamin Faux. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cette série n'a pas finalement anticipé la nomination d'un Premier ministre femme?
Ou centriste, je ne sais pas.
Ou centriste. Non, mais pas d'une femme.
C'était une des problématiques de la série, effectivement. C'est une femme qui se retrouve dans des conditions assez particulières, propulsées. Aux plus hautes fonctions et qui fait avec le bon sens de à la fois d'une femme et d'une centriste dans le Danemark de notre époque. C'est ça, voilà, c'est rien que là on a déjà la situation de base, on a des enjeux politiques puisqu'on a une situation politique et un environnement politique et des enjeux personnels puisqu'on a également la vie du personnage principal et ses enjeux familiaux, etc.
Charline de Lépine.
Non, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est si Helle Thorning-Schmidt n'a pas été élue en partie grâce à Borgen.
C'est ça qui est intéressant, Emmanuel Taïeb. C'est la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce que les séries aussi font à la politique et en quoi elles anticipent, elles mettent à l'agenda, comme on dit en sciences politiques, un certain nombre d'enjeux qui n'étaient peut-être pas forcément présents ou pas forcément mûrs dans la société et qui accélèrent.
C'est la question centrale, c'est l'idée que les scénaristes partent du réel et le poussent. Mais c'est aussi le fait que dans les séries, il y a une relative liberté qui va permettre d'explorer un certain nombre d'idées ou un certain nombre de pistes politiques ou sociales plausibles. Et donc, on peut considérer que les séries sont des laboratoires d'expérimentation politique, des laboratoires de propositions politiques. Et bien entendu, dans les séries politiques, comme il faut quand même que les candidats aient des programmes et autres, il faut que tout ça soit plausible, ça implique une imagination. Cette imagination, elle part quand même du réel. Mais il y a, dans toutes les séries, notamment dans The Wire, une véritable dimension utopique, réaliste et expérimentale. On peut peut-être dire un mot de The Wire, avec notamment le cas très connu dans la série, d'une enclave dans la ville de Baltimore, l'invention d'une enclave dédiée à la libre circulation des drogues, dans laquelle la police n'intervient pas, où les dealers peuvent aller sans être inquiétés. On réunit tout le monde au même endroit pour éviter que le deal de drogue ne se répande dans toute la ville et notamment dans les quartiers résidentiels. Donc la série fait cette proposition-là en disant voilà une idée pour arrêter avec la lutte inopérante contre la drogue. On crée une enclave. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, le dernier mot revient quand même aux politiques dans la réalité parce que l'enclave d'Amsterdam, elle s'appelle comme ça dans la série, est finalement abandonnée par les scénaristes et abandonné par la série elle-même.
Il y a une dimension assez extraordinaire dont parlait aussi Ariane Chemin quand elle disait « est-ce qu'il n'y a pas une anticipation ?» Et j'aimerais, Emmanuel Taïeb, que vous reveniez sur cet exemple-là. C'est l'exemple de la série West Wing, hein, dont le scénariste s'est inspiré à la fin des années 90 d'un jeune élu démocrate qui s'appelle Barack Obama. Est-ce que vous pouvez nous raconter
ça? Qui était encore sénateur, l'un des scénaristes le repère. Il est en contact avec quelqu'un qui deviendra très influent auprès d'Obama, qui s'appelle David Axelrod. Et il est effectivement ce jeune scénariste qui travaille dans la production de la série The West Wing, fasciné par le charisme de ce jeune sénateur noir qu'on connaît pas, qui s'appelle Barack Obama, qui est à Chicago, et il se dit qu'il va falloir l'intégrer dans la série. Alors il le change un peu, il en fait un latino qui va appeler Matt Santos et qui va être un candidat à l'élection présidentielle.
Qui va même devenir le président.
Qui devient le président après le président Barclay.
Là, on est dans l'anticipation. On est dans l'anticipation de l'élection de Barack Obama, Benjamin Faux.
Je pense que, en fait, les séries récupèrent le subconscient général. C'est quelque chose, c'est l'air du temps. C'est quelque chose qui se passe, qui n'est pas encore forcément arrivé à maturation. Mais voilà, en passant, on récupère un petit peu de subconscient collectif.
Est-ce que, par exemple, les pirates ont fait leur apparition dans une série? Non, là, c'est trop. On est trop dans l'anticipation. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous parliez d'utopie, mais. Là, c'est la question que je pose à Charline Delépine. Est-ce que, parce qu'il faut dramatiser une série, est-ce qu'on ne donne pas aussi un côté un peu noir de la politique? Là, dans cette petit medley qu'on a entendu, on a tout, les conflits d'intérêts, les conflits privés, les jalousies médiatiques, ça donne une idée assez atroce de la politique. Est-ce que ce n'est pas l'écriture qui induit ça?
Mais c'est un peu le danger. C'est effectivement de se retrouver avec des personnages qu'on noircit pour aussi les besoins de la dramaturgie. Et comme on rentre dans des grands sentiments très shakespeariens, de haine, de trahison, on se retrouve avec des personnages qui sont très très noirs. C'est le danger. Il faut faire attention. Il faut quand même laisser des personnages avec un peu de rédemption. Sinon, on va vers le tout pourri,
Ce qui est un peu toujours le danger des gens qui font des scénarios politiques, qui ont toujours peur d'aller vers cette dimension du tout pourri.
Je trouve que en France, en tout cas, quand on prend une série comme Baron Noir, elle est quand même extrêmement tournée vers la question de la corruption, des affaires, des scandales. Donc, ça renvoie à une certaine vision de l'activité politique. Alors, c'est peut-être problématique parce que la politique, ça n'est pas que ça. Il y a une véritable activité politique derrière qu'on voit, par exemple, dans une série comme Borgen, ce serait intéressant de comparer les deux, ou dans The West Wing.
Benjamin Faux.
En grec, il y avait deux termes pour parler de politique. Il y avait la politiquée et politéia. La politiquée qui était vraiment la carrière politique. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, dramaturgiquement, fonctionne très bien et qui est très utilisé. Trop utilisé, peut-être. Et Politeia, qui est, pour le coup, la gestion de la cité, qui est aussi une problématique politique, et qui est beaucoup moins développée. Qui est développée souvent comme contexte, mais pas vraiment comme moteur.
Bah c'est précisément ça, peut-être le problème aussi, justement, les reproches qu'on peut faire aux séries, de dire, mais on ne met en scène que la lutte concurrentielle pour le pouvoir, comme si, en fait, les hommes et les femmes politiques ne faisaient que chercher le pouvoir, mais ne l'exerçaient jamais. Est-ce que ça donne pas, justement, cette image un peu tronquée de la vie politique?
Moi, je trouve que oui, et que la grande série sur ce qu'est réellement l'activité politique, dans sa quotidienneté, cette grande série française, en tout cas, elle y est pas encore, alors qu'on la trouve dans d'autres pays. Et effectivement, une série comme Borgen va mettre en scène ce qu'est l'activité politique au quotidien, la conciliation avec les autres partis, les consultations, comment mener de front une vie politique et une vie personnelle à peu près normale. Et la force de Borgen, c'est que tous les scénarios sont écrits avec deux fils narratifs, avec la même idée. Par exemple, il y a des épisodes sur faut-il dire la vérité aux électeurs, et donc c'est le dilemme auquel est confronté la première ministre ou la première ministre. Et en même temps, faut-il dire la vérité à ses enfants? Et donc, tous les scénarios sont écrits dans ces deux dimensions parallèles de la vie personnelle et de la vie collective.
Est-ce qu'on a des enfants, Charline Delépine, dans les séries politiques françaises?
Non. Alors, pour le coup, nous, on n'en avait pas du tout. Je crois qu'il n'y en a pas du tout dans Baron Noir, ou à peine.
Il y a une fille
adolescente, mais plus vraiment enfant. Nous, on n'en a pas du tout dans Les Hommes de l'Ombre, si ce n'est un enfant à venir, puisque le président de la République a mis sa maîtresse enceinte et donc il va avoir un enfant. Mais non, c'est vrai que c'est pas un lieu vraiment où on met en scène les enfants. Pour répondre à Emmanuel par rapport à Borgen, le vrai problème que nous avons également en France, c'est que dans nos relations avec les diffuseurs, la chronique est un gros mot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, créer de séries qui soient des chroniques. Or, Borgen est clairement une chronique.
Qu'est-ce que vous voulez dire par une
chronique? Voilà, c'est au fil du quotidien, ce qui arrive quotidiennement. Vous voyez, La plus belle la vie est une chronique. Bon. Et dans les séries de prime time, la chronique est pratiquement... c'est un gros mot, vraiment. Vous dites,
pourquoi?
Parce que, visiblement, le public a besoin d'être entraîné dans de l'hyper-romanesque, et on l'a habitué maintenant ainsi. Et à partir du moment où on l'a habitué dans l'hyper romanesque, il a cette demande d'hyper romanesque.
Il y a une dramaturgie beaucoup plus forte quand effectivement on va tout resserrer sur quelques épisodes et on va faire une espèce de montée dramatique, alors qu'effectivement la chronique permet sur 12 ou 24 épisodes
absolument
de prendre son temps, et y compris en suivant un arc narratif un peu général, mais y compris en prenant son temps pour explorer un certain nombre de problèmes spécifiquement politiques.
Benjamin Faux.
C'est intéressant qu'on parle de Plus belle la vie, parce que pour moi, actuellement, c'est la série la plus politique diffusée quotidiennement.
Dans quel sens ?
C'est une série alors qui, avec parfois des maladresses, enfin souvent des maladresses, faut le dire, avec l'obligation vraiment de faire vraiment dans l'hyperfeuilleton également à sa façon, aborde des problèmes politiques du quotidien de manière frontale.
D'abord parce qu'il y a une agora.
Exactement. C'est vraiment... La série est conçue par l'intrication sociale des personnages et par les voilà. Donc ils sont obligés de faire de la politique, et en plus ils sont très proches de l'actualité, donc ils rebondissent souvent sur des faits proches de l'actualité, un peu à la manière de alors effectivement à la manière des soaps et des novellas dans la forme, mais avec parfois beaucoup plus de fond qu'on pourrait le croire.
Manuel Taïeb.
C'est tout à fait valable pour Plus belle la vie, ça l'est aussi pour beaucoup d'autres séries politiques, on a beaucoup parlé de The Wire. L'idée qu'on peut développer, que moi j'essaie de développer dans mes travaux, c'est que les séries sont véritablement devenues des lieux de démocratie participative ou des lieux dans lesquels les débats d'actualité sociaux sont discutés et soumis dans l'espace public, et donc la série est comme une arène participative.
Alors ça c'est intéressant parce que c'est justement, je crois, un double ressort des séries américaines qu'on ne retrouve pas forcément en France. Premier ressort, peut-être que vous pourriez en dire un mot, c'est la façon dont les fans influencent les scénaristes. Et puis de l'autre, on voit quand même que les scénaristes eux-mêmes, et là c'est peut-être un peu la différence avec ce que nous présentait Charline Delépine sur Les Hommes de l'Ombre, mais ça pourrait être valable pour Baron Noir, avec des gens qui soit ont été... Enfin, il y a des allers-retours, on a l'impression plus fort entre la vie politique et l'écriture de scénarios aux États-Unis qu'en France.
Oui, il y a ces deux dimensions-là. Il y a presque, en poussant un tout petit peu l'idée d'une coproduction, ou en tout cas d'une production accompagnés par les fans ou les amateurs qui se saisissent de leur série et qui se saisissent précisément de ce qui est proposé dans la série pour le discuter, pour dire que voilà, il faudrait lever tel mystère, ça c'est pas plausible, tel personnage ne pourrait pas s'exprimer comme ça. Il y a des forums entiers, les showrunners en tiennent compte vraiment pour écrire la suite. Donc il y a vraiment là une forme d'arène de coproduction.
Charline Delépine, est-ce qu'on pourrait imaginer ça en France, que demain, des fans écrivent et disent « Moi, je veux que tel personnage disparaisse » ou alors qu'on fasse changer, fasse des twists dans le scénario, comme on dit. Est-ce que c'est imaginable ?
Mais pas dans notre façon de travailler, non, puisque c'est vrai qu'on écrit les épisodes avant même de rentrer en production. Donc, on n'est pas dans un phénomène d'écriture et de production simultanée. Donc, ça serait factuellement pas possible. Mais pourquoi pas sur une saison 2 ou 3. Bon, il y a aussi beaucoup de showrunners américains qui écrivent dans leur coin et ne tiennent pas du tout compte de l'influence et des... Je pense pas que Vince Gallagher ait tenu compte de ce qu'on pouvait lui dire dans sa série, mais en tout cas nous on ne peut pas travailler comme ça de la façon dont on écrit.
D'accord. Eh bien, on va revenir un peu sur les façons dont non seulement le public s'empare des séries, mais aussi la façon dont les hommes politiques s'emparent des séries qui leur sont consacrées. Et on écoute Kad Merad qui parle de la réaction de François Hollande à la série Baron Noir. C'était en mars 2016.
Je pense que, en fait, ça doit lui rappeler des souvenirs, quoi. Je pense que, comme c'est hyper réaliste, et que le type qu'il a écrit est quand même un ancien du parti, et qu'il a un peu eu le temps de voir ce qui s'est passé, et qu'il a dû se servir de ses expériences pour créer une série et d'être le plus près possible de la vérité. Je pense que, comme on montre pas un président forcément toujours le plus normal, enfin, tu vois ce que je veux dire, et puis on montre quand même de la manipulation, des coups bas, des trucs un peu, voilà. Donc ça peut pas lui faire plaisir forcément. Mais il a reconnu que c'était très bien fait, mais caricatural. Ça veut dire que, je pense qu'il n'a pas dû apprécier peut-être le regard du président, mais bon.
Je vous vois sourire et même rire, Charline Delépine. Vous n'avez pas l'air du tout convaincue par Kad Merad.
Non, je suis pas convaincue sur ce qu'il dit. En l'occurrence là, précisément sur François Hollande, je ne sais pas si ça leur fait plaisir ou pas plaisir en fait à nos politiques en voyant ces séries. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent réellement. Et en fait, on s'en fiche surtout. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est quand même destiné avant toute chose au public et pas vraiment aux politiques.
Oui, mais pas si longtemps quand même. Encore une fois, il y avait une interrogation sur les chaînes, notamment publiques, qui dépendent quand même des mannes de l'État, sur la façon dont il fallait traiter la politique, et notamment la volonté de pas trop déplaire. On ne peut pas faire comme si, depuis tout temps, la télévision publique avait aucun problème avec le pouvoir politique.
Là, je suis en train
pas de langue de bois.
Je suis en préparation et en train de terminer l'écriture d'une série qui se passe en 1962. Alors oui, c'était autrement, bien sûr. D'ailleurs, on en sent encore aujourd'hui les stigmates, et particulièrement dans l'indépendance que revendiquent les journalistes. On voit qu'il y a eu une époque pas si lointaine.
Pas si lointaine quand le président de la République nommait notamment les chaînes, les patrons
bien
de chaînes.
Sûr. Non, mais non, mais là je crois qu'aujourd'hui, on a tout de même vraiment cette liberté. En tout cas, je vous garantis que sur les hommes de l'ombre, on n'a pas du tout été limité et à aucun moment on nous a exigé si ou ça. Voilà.
En tout cas, c'est vrai que les Anglais et les Américains ont toujours été fascinés que la télévision française n'ait pas su faire un feuilleton sur l'histoire de François Mitterrand, d'Anne Pinjot et de Mazarine Pinjot. C'est vrai. Emmanuel Taïeb, il y a aussi des politiques qui regardent les séries qui s'en inspirent pour leur action. Et c'est notamment le cas d'une ministre qui a regardé Le Baron Noir et d'autres séries pour se dire comment je vais me comporter, comment je vais agir. Est-ce que ça arrive, ça ?
Oui, ça arrive. Alors, on n'a pas non plus beaucoup d'exemples, mais on en a quelques-uns. On a mentionné Barack Obama tout à l'heure, qui est effectivement un grand fan de The Wire et qui visiblement a tout regardé, il a tout vu. Il est fan notamment d'un personnage dans The Wire qui s'appelle Omar Little, qui est un voleur qui va voler uniquement l'argent sale du deal de drogue, donc qui a un code de l'honneur très important. Donc, c'est son personnage préféré. Et Ariane, vous faisiez allusion en fait à Najat Vallaud-Belkacem qui, en 2012, quand elle avait le porte-parole du gouvernement, a dit qu'elle s'était inspirée du personnage de C.J. Craig, qui est la porte-parole de la présidence, de la Maison-Blanche, dans, justement, à la Maison-Blanche de West Wing. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour savoir comment endosser son rôle, ce qui est vraiment la base dans la professionnalisation politique, c'est très important de savoir endosser des rôles différents, eh bien, assez étrangement, Najat Vallaud-Belkacem va se tourner vers un personnage de fiction, vers son homologue de fiction, pour savoir comment être une bonne professionnelle du porte-parole.
Ça parle aussi de la solitude du pouvoir, d'une certaine manière, parce que à qui peut demander Najat Vallaud-Belkacem si elle veut s'interroger sur comment remplir une fonction qu'elle n'a jamais remplie?
Elle est visiblement un peu coincée. Soit elle appelle un ancien porte-parole, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle l'a fait. Soit effectivement, elle va chercher dans la fiction les moyens de sa propre professionnalisation.
Benjamin Pau, vous retrouvez l'actualité politique ou dans sa chronique des références à des séries, ça vous arrive?
C'est plutôt l'inverse en général, mais ça peut arriver. En général, l'actualité dépasse largement tout ce qui a pu être imaginé auparavant. À chaque fois, on est surpris plutôt par l'inventivité des vraies personnes, des vraies politiques.
En France.
En France, aux USA aussi. Ils vont toujours plus loin que ce qui était prévu. Mais là, il y avait quelque chose. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que disait Kadmerad. Il mettait en avant l'hyper réalisme de la série. Mais faire de l'hyper-réalisme n'est pas le seul moyen de parler politique dans une série télé ou dans une fiction au sens large. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, qui sont les séries de science-fiction ou la littérature de science-fiction, qui sont aussi des séries politiques.
Comme King of Thrones, par exemple, ouais. Une série politique et de science-fiction.
Game of Thrones, c'est vraiment une série politique.
Ou Benjamin pensait à Battlestar Galactica,
ouais, effectivement, qui pour le coup a un propos politique clair, net et précis. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important dans toute la série. Et effectivement, c'est la fiction, c'est l'art du et si. Et si il se passait ça, on va regarder ce qui se passe, et y compris dans des questions politiques ou sociales. On regarde ce qui va se passer dans telles conditions.
Oui, moi, c'est ce que j'ai appelé le récit en SI. C'est-à-dire qu'on va poser cette base-là, et dans le cas de Battlestar Galactica, on repart quasi explicitement du... Alors, il y a plein d'allusions à l'histoire américaine, à l'assassinat de Kennedy, etc., mais on repart plutôt explicitement du 11 septembre, et on voit quel type de réponse il était possible d'apporter au 11 septembre. Est-ce qu'on va vers une réponse politique? Est-ce qu'on va vers une réponse militaire? Qu'est-ce que ça fait aux acteurs d'être plongés dans un événement pareil?
Qu'on est dans un vrai état d'urgence, pour le coup, parce qu'on peut difficilement faire plus d'état d'urgence que dans Battlestar Galactica. Comment réagir? Que faire?
Comment figurer les ennemis? Comment parler avec l'ennemi ou pas? Donc là, il y a des vraies questions qui sont traitées par une série politique de science-fiction.
Voilà. Où il n'est pas question de réalisme, entre guillemets.
Charline de Lépine, de plus en plus, dans la presse écrite, on fait référence ou on utilise les codes de la série, en parlant par exemple de saison 1 ou saison 2, pendant une campagne électorale, dans des titres. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une forme de revanche? Est-ce que la série aurait été un genre un peu méprisé et qui d'un coup connaîtrait ses lettres de noblesse?
Oui, oui, c'est vrai. Ça me fait très plaisir parce que, comme je le précisais, on est un peu en retard en France. C'est vrai que nous avons commencé à travailler sur les séries très en retard. Mais pendant longtemps, c'était un genre vraiment mineur. Et aujourd'hui, enfin, alors c'est grâce aux Américains, c'est évident, hein, c'est pas grâce à notre travail au départ, mais grâce aux Américains, la série est devenue un art, pas vraiment majeur, mais est devenue un art à part entière.
Emmanuel Taïeb, d'ailleurs, on voit bien que même quand on pense à ce journal en ligne qui s'appelle Les Jours, auquel participent notamment Raphaël Garrigos, Isabelle Roberts, qui sont d'anciens journalistes à Libération, il n'y a plus maintenant de chef de rubrique ou de chef de service, il y a des showrunners, comme dans les séries. Donc même question d'une certaine manière qu'à Charline Delepine, est-ce que finalement le monde politique n'est pas en train de devenir une grande série live et en réel?
C'est notre manière en tout cas de l'appréhender, de le découper en saison, de le découper en épisode, de se caler sur les grandes scansions électorales.
Mais c'est aussi une façon de s'intéresser aux personnages et aux psychologies plus qu'aux idées ou aux convictions, par exemple.
Il y a une très grande personnalisation de la vie politique en France depuis très longtemps. Le phénomène des séries va dans ce sens aussi et accroît cette dimension-là en incarnant des personnages qu'on peut suivre pendant très longtemps, alors que c'est plus difficile de suivre les personnalités politiques dans leur intériorité. On les voit plutôt dans des mises en scène et à l'extérieur. Les séries viennent, au fond, nous montrer les coulisses.
C'est intéressant d'ailleurs que, par exemple, François Hollande, on lui reprochait de ne pas être capable d'être un personnage de série, finalement, d'exprimer un certain nombre de sentiments. Être trop indéchiffrable.
Oui, il y a moins d'émotions que ce que peut procurer le monde des séries. Après, les rebondissements politiques sont riches aussi en émotions dans la réalité.
Benjamin Faux, vous qui êtes aussi journaliste, vous ne croyez pas que c'est aussi d'économie de la presse où au fond, comme il y a une sorte de concurrence sur le fait brut très vive, est-ce qu'on ne s'en sort pas finalement en fictionnalisation de la politique, en faisant des récits politiques parce que c'est la chose qui permet de se différencier?
Si, c'est le storytelling en fait qui est, mais c'est pas seulement en politique, dans tous les milieux, qui a vraiment envahi la société. Si on veut trouver un travail, un meilleur travail, il faut réussir à se raconter maintenant. On en est là, donc ça marche aussi en politique évidemment. Et tous les personnages, on sort d'une campagne, tous les candidats pourraient être des personnages de séries télé. Tous, sans exception.
Alors justement, ça sera le mot de la fin parce qu'il nous reste une minute dans cette émission. Pour nos auditeurs qui seraient curieux de séries, fans de séries, à quoi il faut s'attendre dans le monde des séries? Vous qui êtes des connaisseurs à tous les niveaux de position, producteurs, journalistes, universitaires, il faut s'attendre à quoi dans les séries du futur en politique? Vraiment en trois mots, Charline Delépine.
J'ai aucune idée ce vers quoi pourrait tendre une série politique en ce moment en France. Franchement pas. Avec ce qui vient de se passer, il faut nous laisser respirer. Je pense que les scénaristes sont pas du tout à même là de décrire quoi que ce soit.
Benjamin Faux.
C'est pareil un peu aux USA et en France. On est en train de respirer, de regarder un peu ce qui se passe, de se dire que c'est beaucoup plus que la réalité est beaucoup plus surprenante que la fiction et qu'on va avoir du mal à tenir la comparaison. Et je pense qu'on va plus aller vers des expressions SF ou vraiment de l'imaginaire plutôt que dans le réalisme.
Peut-être une web série format relativement court qui montrerait la réalité de l'exercice du pouvoir au quotidien.
Oui, c'est intéressant de voir que la nouvelle série la mode s'appelle VIP aussi aux États-Unis. C'est une série qui traite plutôt par l'humour, qui est sortie un peu de l'ultra réalisme. De House of Cards.
Merci Vincent. Vous avez peut-être, quelques conseils de lecture, mais peut-être quelques sorties à nous proposer ce week-end.
Quelques sorties cette semaine. Si vous êtes parisien et fan de séries, vous pouvez vous rendre jusqu'à dimanche soir, sans oublier de voter, bien sûr, au festival Sériemania, qui est le plus grand festival français de séries consacré aux séries télévisées, non pas seulement en France, mais du monde entier. Récente ou inédite, au Forum des Images au Hall. C'est gratuit, ouvert à tous, et il paraît qu'il y a encore de la place. Donc vous pouvez y aller si vous êtes à Paris. Et puis. Tout, vous saurez tout sur les séries grâce à l'ouvrage de Pierre Cerisier, Marjolaine Boutet, Joël Bassager, Sériescopie, guide thématique des séries télé, paru aux éditions Ellipse, qui liste l'ensemble des séries par thème et par sous-thème, et ça c'est tout à fait intéressant pour ceux qui s'intéressent à cet univers. Et puis on citera enfin pour les plus érudits et puis ceux qui s'intéressent un peu aux sciences sociales, le numéro de revue que vous avez dirigé, Emmanuel Taïeb, qu'a dernier en 2015, les séries politique-fiction, que vous pouvez retrouver notamment sur Cairn en ligne, qui est le portail en ligne des sciences sociales.
Merci Vincent, merci chers auditeurs, merci à vous. C'est la fin de l'Atelier du Pouvoir, une émission de Vincent Martini et Ariane Chemin, préparée par Antoine Dulster, réalisée par Vincent Abouchard, à la technique aujourd'hui Jean-Michel Bernaud. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notre compte Facebook ou Twitter, Atelier Pouvoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et dans un instant, c'est la suite dans les idées de Sylvain Bourmont. Bon week-end à tous sur France Culture.